Et on enchaîne pour notre dernière interview de l'émission. Je profite pour remercier toute l'équipe de Radio Campus France pour l'organisation de l'émission. On remercie également Radio Campus Tours pour leur accueil et bien sûr toutes les Radio Campus qui diffusent notre émission en direct. Donc on est toujours aux assises du journalisme de Tours et on reçoit sur le plateau Emmanuelle Dancourt, présidente hashtag de l'association MeTooMedia, et Florent Pommier, vice-président de MeTooMedia. C'est une association MeTooMedia qui est créée en 2021 suite à l'affaire Patrick Poivre d'Arvaux. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et on reçoit également Isabelle Borde, journaliste pigiste et chroniqueuse pour Arrêt sur Image. Bonjour.
Bonjour.
Et je passe le micro à Maïwenn et Natacha de Radio Campus Paris et Radio Campus Brest pour l'interview.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Dans quelle mesure les mouvements comme MeToo et d'autres affaires comme PTDA ou le procès Mazan ont-ils contribué, selon vous, à transformer des faits divers en débats politiques? Et quelles en sont les conséquences concrètes sur les lois et les politiques publiques?
Alors, c'est pas peut-être moi la plus militante féministe du groupe, quoique. Mais je pense que c'est aussi la prise de parole des féministes dans ces moments-là qui ont empêché les journalistes de se contenter de faire un suivi comme un fait divers ordinaire, même s'il était répété. Et, voilà. Et bien sûr, la répétition du fait fait que ça prend un sens social qui saute aux yeux. Là, ça commence à être difficile de nier qu'il y a un problème sociétal autour du viol et... Ouais. Avant même d'employer les mots de domination masculine et de culture du viol, etc.
Les violences sexistes et sexuelles sont 6 fois plus traitées par les médias français qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Donc ça va dans le bon sens. Moi, je fais partie de l'affaire PPDA. Je suis victime dans cette affaire-là, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, MeTooMedia est né de cette affaire-là. C'est principalement des journalistes qui étaient dans la première enquête préliminaire. Et on s'est dit, si nous, on ne renverse pas le MeToo, nous qui sommes à la fois victimes et journalistes, mais qui va le faire? Bon. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas réussi à renverser le MeToo, mais on a quand même réussi à pas mal d'élargir en France. Et après, on a dézoomé de cette affaire-là pour en lancer plein d'autres. L'affaire Bourdin, l'affaire Plaza qui a été lancée avec Mediapart, toute l'affaire Énergie aussi. Soit on suit les victimes, soit on a lancé certaines affaires. L'affaire de la maîtrise des Hauts-de-Seine, etc. Et tout un tas d'affaires que vous ne verrez pas dans les médias puisqu'elles ne sont pas... dites médiatisables, mais effectivement il y a quelque chose qui s'est desserré si on regarde le journalisme français qui s'est desserré sur ces affaires-là, et merci de dire que c'est pas un fait divers mais que c'est un fait de société, parce que c'est exactement ça, ça embarque toute la société. À partir du moment où une femme sur deux est concernée en France, on a toutes subi ne serait-ce qu'au moins une sale blague sexiste, un outrage sexiste, du harcèlement, une agression, un viol, ça embarque tout le monde.
Mais non seulement c'est pas un fait divers à traiter comme tel dans un bout de journal, mais c'est un fait de société dans la mesure où ça a des conséquences bien au-delà du monde policier, du monde judiciaire. Ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences financières, économiques, psychologiques. On ne peut plus traiter les violences sexuelles comme un fait divers, comme ça, dans une rubrique consacrée aux faits divers. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure... Et des journalistes américains et canadiens ici, il n'y a pas dans le monde anglo-saxon ce type-là de journalisme fait divers.
Ni chez les Allemands.
Ça n'existe pas, ni chez les Allemands. Ils ne comprennent pas ce terme. Pour eux, c'est totalement décalé. Nous sommes décalés. Le journaliste français parlant de fait divers, à mon avis, il faut l'enterrer. Ce terme, point.
Et pour répondre à la question politique, parce qu'on n'a pas répondu sur la question politique, alors ils sont merveilleux, les politiques. Ils passent leur temps à se tirer des balles dans le pied. Ils se sont littéralement saisis. D'abord, forcément, il y a eu aussi beaucoup de MeToo en politique, l'affaire Abad, l'affaire Bayou, l'affaire Quatennens, etc. Mais surtout, on a un président de la République qui a le chic pour être à contre-courant de ce mouvement MeToo, qui va nous dire, écoutez, moi j'ai parlé à Gérald les yeux dans les yeux, j'ai parlé à Nicolas les yeux dans les yeux, il a parlé à beaucoup de gens les yeux dans les yeux, il a eu Gérard au téléphone aussi, et qui systématiquement...
Depardieu, Hulot, enfin derrière les noms de famille, bien sûr.
Et qui a fait cette œuvre grandiose, qui marquera son double quinquennat, d'avoir soutenu Depardieu en décembre 2023 en direct à la télévision. D'où le fait que MeToo Media en ait fait une lettre ouverte au président de la République devant le journal Le Monde, qui a été signée par plus de 7000 personnes. On disait: Monsieur le Président, vous validez au plus haut sommet de l'État la culture du viol. Et donc, le viol, à la base, avant même que les politiques s'en emparent, est un sujet politique et pas du tout un sujet dans l'intimité des alcôves. Non.
Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Justement, vous avez parlé du fait de ne pas traiter ces cas comme des faits divers. Et j'avais une question pour vous en tant que journaliste. Comment justement les médias devraient adapter leur approche pour éviter de faits divers, les VSS finalement, pour éviter de les réduire à des simples faits divers?
Pour moi, en fait, il y a un problème autour du fait divers et de sa définition, y compris parce que pendant très longtemps, le fait divers pour moi, tel que je l'entends, tel que j'ai pu le pratiquer quand j'étais à OS France ou comme je l'analyse maintenant, c'est en fait ce qu'on appelle le fait divers, c'est le premier moment où un fait, une entorse à un contrat social, pour reprendre les termes d'un collègue hier, est produite. Ok, il y a une infraction ou un soupçon d'infraction, quel qu'il soit. Et à ce moment-là, c'est du domaine des forces de police ou de gendarmerie, de l'enquête, des enquêtes préliminaires, etc. Là, on peut encore dire que c'est un fait divers parce qu'on ne sait pas justement où classer. Quoique, à part des affaires comme le petit Grégory, où on a l'impression qu'il y a une affaire familiale, surtout des ressorts d'ordre psychologique et familiaux et pas tant que ça sociétaux, quoi qu'on ait voulu dire le contraire à l'époque, y compris dans les journaux de gauche comme Libé. Pour moi, il y a très peu de faits divers qui échappent aux faits de société. Et d'ailleurs, quand même, pour défendre un peu les journaux, la plupart, sauf CNews, pour des raisons qui sont différentes du Parisien, qui lui aussi a un onglet faits divers propre, mais c'est parce que c'est sa boutique, le fait divers, la plupart des médias rangent les faits divers en société. Et en fait, ça devient des faits de police ou de justice ensuite, ou des faits de société pure ensuite. Voilà. Parce que la première approche, elle est dans l'événement, dans le show, et on n'a pas encore tout bien réfléchi. Voilà. Parce que de fait, on ne peut pas savoir au tout début. Et c'est moi, c'est un fait qui est une obsession chez moi. C'est pourquoi on dit beaucoup trop de choses justement à l'instant show, c'est-à-dire quand un journaliste n'a qu'une source, très clairement, la police. Pourquoi il donne tout, y compris l'origine, y compris la nationalité, quand il ne sait pas encore si c'est un rapport? Ça peut avoir un rapport. Il peut y avoir des phénomènes géopolitiques qui font qu'il y a une nationalité qui est particulièrement remontée contre l'État français et mène un attentat, par exemple. Enfin, il y a eu un événement à Tours la semaine dernière. On y reviendra peut-être. Je m'arrête là.
Non, c'était juste passionnant parce que ça permettait de revenir, justement, on voudrait revenir après sur la récupération politique des faits divers, et vous embrayez très bien là-dessus, mais peut-être que d'abord Emmanuel Dancourt et Florent Pommier...
Non, je voulais juste rajouter un tout petit truc, et je trouvais la réponse passionnante. Nous, ce dont on se rend compte à MeToo Media, c'est que les journalistes, mais dans leur entièreté, quel que soit leur journalisme, ne sont pas formés. Nous, notre truc, c'est les violences sexistes et sexuelles, hein, donc je ne vais pas aller plus loin dans le fait divers, mais ne sont pas formés sur les VSS. Et ça, c'est un problème. Des fois, ils ne savent même pas bien nommer. Ils vont vous parler d'attouchement ou d'abus. Ça n'existe pas en pénal. Non, ça s'appelle une agression sexuelle. Ils vont vous dire le grand-père couchait avec la petite fille de 12 ans. Non, l'homme violait l'enfant. C'est important de bien nommer. Bien nommé, c'est le début du bonheur, peut-être, en tout cas d'une certaine vérité, pour paraphraser Camus. Et donc nous, on donne des formations dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, des formations expertes qui sont faites par des journalistes qui ont été victimes. Donc on est des deux côtés de la barrière pour apprendre justement à traiter de ces sujets-là. Et je pense que ça participe, pour répondre à votre question, au problème, le fait de ne pas être assez formé.
Concernant la récupération politique des faits divers, on a un petit exemple en amont de la manifestation justement qui a eu féministe du 8 mars, donc là récemment. Némésis, donc le collectif fémo-nationaliste d'extrême droite, a appelé à former un cortège au nom du slogan Elles auraient dû être parmi nous, en affichant les photos de Lola, de Philippine et d'autres femmes dont le meurtre a été récupéré par l'extrême droite. Qu'est-ce que cette situation, finalement, peut nous dire sur la récupération politique des faits divers?
On se regarde toutes en disant qui va en premier. Ils sont pénibles ces gens à avoir des très bonnes questions comme ça. En fait, le problème, moi ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du féminisme. J'ai plongé dans ce milieu-là avec l'affaire PPDA et en créant MeToo Media. Avant, j'ai eu la chance d'être dans une famille extrêmement déconstruite. Donc pour moi, les choses étaient acquises et je me rends compte que non. Donc je suis encore un petit peu nouvelle là-dedans. Donc je vais essayer de pas vous dire de bêtises. En fait, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. C'est une famille qui est quand même assez divisée, malheureusement. Et qui se divise sur deux grandes questions, la question du voile et la question de la prostitution. Donc soit on est dans abolitionniste, soit on est au contraire pour une certaine prostitution. Nous, MeToo Media, on a pris notre parti, on est abolitionniste. Et puis est arrivé Némésis, qui effectivement a un féminisme à géométrie très resserrée. Je ne sais pas comment dire ça.
Old school un peu quand même.
Old school quand même, ouais.
Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire qu'elles sont féministes. Non, tout court d'ailleurs, Némésis, en réalité.
On est d'accord. Bon, bah donc j'ai pas besoin d'expliquer. Et nous, on n'est pas d'accord avec cette manière de pratiquer ce féminisme-là, qui s'intéresse qu'à un certain type de prédateurs et qu'à un certain type de victimes. Donc les victimes blanches et les prédateurs étrangers. Alors que, dans 91% des cas, le mis en cause est quelqu'un que la victime connaît. Donc ça vient battre en brèche. Et donc, effectivement, c'est compliqué. Et la politique a beaucoup récupéré le féminisme. Et nous, ce qu'on déplore aussi, c'est que le féminisme, à la base, c'est un sujet de gauche. La droite s'en est pas du tout emparée. Et quand il s'en empare, c'est pour... pardon de le dire comme ça, mais je vais me lâcher. C'est pour dire de la merde. Donc ça, c'est un problème. Et nous, quand on médiatise nos affaires, on n'arrive pas à les médiatiser dans les médias de droite. Alors, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas si ce n'est pas quelqu'un d'étranger qui est mis en cause. C'est compliqué, hein.
Sauf, pardon, que quand même, l'avortement, la pilule, c'est pas des gens de gauche qui l'ont fait.
C'est bien de le rappeler.
Bah oui, c'est bien de le rappeler. Historiquement, c'est quand même la droite qui a fait avancer des combats féministes. Étonnamment, hein, peut-être.
Oui, mais avec des figures particulières.
Avec des figures particulières. Mais aujourd'hui, que fait la gauche sur ces questions? C'est là que j'ai envie d'interpeller. Comment avancer pour que la gauche reprenne aussi son combat progressiste-là?
Oui, bien sûr, après, pour le cas de l'avortement, il y a quand même beaucoup de militantisme autour qui ont fait avancer l'agenda politique, si je peux me permettre de vous interrompre. Pour revenir juste sur la question de la récupération politique des faits divers, peut-être qu'Isabelle Borde, vous aviez quelque chose à apporter.
Et comment la gauche l'applique à elle-même aussi.
Oui, voilà, aussi, on peut...
Pardon, Isabelle.
En effet, une question très intéressante, je suis d'accord avec vous.
Non, mais ce qui est terrifiant là, enfin moi ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille très régulièrement sur le traitement des faits divers et sous le prisme de la déontologie, enfin, j'essaye de m'y tenir. Ce qui est terrifiant, c'est l'agenda politique, mais explicite, parce qu'encore une fois, il y a 10 ans, alors une chercheuse que je vais avoir à la table ronde tout à l'heure me disait que non, c'est plus ancien, mais on avait l'impression qu'il y a encore 10 ans que le Figaro était un journal de droite, très à droite. Bah, c'est réactionnaire sur certains points, mais pas complètement dans la désinformation. Là, ils se sont mis au diapason de la sphère Bolloré qui, elle, a un agenda politique explicite. Et ce qui est problématique, alors eux, on les voit très clairement. Donc là, le problème, c'est quand les gens sont enfermés dans cette bulle-là, parce que du coup, même le fact-checking devient sale quand il est dénoncé par Pascal Pro, et ça donne le sondage qu'on va avoir sur Via Voice où on voit que le fact-checking, bah, c'est pas si bien que ça pour un tiers des gens. Enfin, c'est effrayant. Et je suis en train de perdre le fil. Ce qui me fait peur dans le traitement des faits divers aujourd'hui, la récupération politique qui en est faite, c'est que justement, il y a plein de médias, maintenant je dis normaux, c'est-à-dire ceux qui, on ne peut pas dire neutres, on ne peut pas dire objectifs, tout ça, mais qui n'ont pas un agenda politique explicite, cynique, voilà, et qui se font avoir. Mais alors, est-ce que c'est la fabrique de l'information qui empêche d'avoir le temps de réfléchir? Est-ce que c'est nos biais qui font qu'on reprend? Un exemple précis et un peu long, ce qui va faire l'objet de ma prochaine chronique là, le week-end prochain, normalement, dans Arrêt sur Image, c'est il y a eu une polémique, c'est pas tout à fait un fait divers, mais c'est dans la rubrique police-justice. Il y a eu la Dépêche du Midi annonce qu'il y a eu des massages offerts, tous les mots ont leur importance, à des détenus pour la Saint-Valentin, à la prison de Seyss-Toulouse. Il n'y a que la Dépêche qui sort ça sur la base d'un communiqué d'un syndicat surveillant qui... Tous les syndicats de surveillants n'étaient pas d'accord avec ça. Bref, ils sortent ça, toute la presse ne reprend... Ça, c'est le vendredi, j'entends la Saint-Valentin. La presse ne reprend que, alors je ne sais pas si c'est après un tweet de Gilbert Collard ou pas, bref. En tout cas, la presse de droite et d'extrême droite reprend ça le dimanche. Et le lundi, ça s'ouvre surtout sur plein de journaux, pas tous. Et bien sûr, avec l'idée qu'il y a des massages qui ont été prodigués à Saint-Valentin, c'est faux.
Est-ce que ce n'est pas justement par manque de temps, de
Alors justement, c'est ça, je voulais y venir, je développe juste un peu, je développe juste un petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que, donc, voilà, l'info est donnée, et comme Darmanin, et c'est là où il y a une politisation, une récupération politique, mais maintenant qui est éhontée, systématique, et depuis que Darmanin est au pouvoir, même si c'était Sarkozy qui avait un peu lancé le bal, ouvert le bal, maintenant, comme Darmanin a repris... Ouais, je vais faire une circulaire, c'est scandaleux, ces activités ludiques, ce qui au passage montre que le garde des Sceaux ne connaît rien à la politique
carcérale,
merci. Comme ils pondent une circulaire, là tous les journaux racontent que Darmanin s'énerve et va pondre une circulaire, mais en reprenant, suite au massage prodigué à la prison d'arrêt, à la maison d'arrêt de Seyss, sans à l'indicatif, selon la dépêche. Personne n'est allé vérifier. C'est France 3 Occitanie, le mardi seulement, qui débunk tout. Et après, après toutes les informations factuelles de France 3 Occitanie, qui donc explique que c'était un atelier comme un autre, que ça tombait le 14 février, que c'était une coïncidence, qu'il n'y a pas eu de massage prodigué, que personne n'a touché les détenus, et puis so what, et puis quand bien même, enfin, etc. Mais personne n'a repris ça, à part Libé qui a fait un check news. Personne n'a démenti. Alors qu'on a continué à reparler de cette histoire de circulaire. Et moi, c'est ça qui m'inquiète.
Et justement, enfin, le fait que les médias jouent un rôle dans la récupération politique des faits divers, comment on pourrait éviter, ou du moins les solutions qu'on pourrait trouver pour que ce genre de choses arrive le moins possible ?
Ça s'appelle l'éthique, ça s'appelle la déontologie. Tant que ce ne sera pas appliqué dans les rédactions, on va avoir un problème. Il faudrait un responsable éthique dans chaque rédaction, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence.
Alors justement, c'est drôle, on avait un échange hier avec mon ancien rédacteur-chef de West France. Et moi, je leur posais la question, parce que moi, je suis rentrée à West France par idéalisme, un peu justement, déjà, la déontologie, tout ça, parce que la charte a plus de 30 ans à West, et elle est très bien faite, cette charte. Elle est très très bien faite, et elle est assez... et puis elle insiste sur un truc majeur qui est, on doute, on discute, on peut appeler le rédacteur-chef sur un truc, etc. Sauf que personne ne le fait, parce que quand on appelle le rédac-chef, bah, c'est quand même ressenti un peu comme un échec. Donc, on essaye de se démerder tout seul. Et puis surtout, la structuration des conditions de travail fait que c'est juste impossible. Parce qu'à West France, il y a plein de journalistes en détaché, il y a plein de débutants. Il y a tous les stagiaires été qui sont juste en première année, que quelquefois on laisse tout seul le premier week-end. Le week-end, il se passe quoi ? Des accidents ou des plus que les autres jours. Donc moi, j'ai demandé comment ils structurent. Et bien sûr, il n'a pas répondu. Comment structurellement on se donnait les moyens de faire respecter la déontologie. Mais après, je pense surtout qu'il faudrait qu'on arrête aussi de se dire « Oui, nous, les journalistes, on se flagelle toujours. » Non, c'est pas une question de flagellation, mais regardons-nous bien. Et puis agissons. Parce qu'au prétexte de ne pas se flageller, ben, on continue.
Est-ce que tu as encore une question
Non, j'allais dire quelque chose très vite,
parce qu'on c'est bien, quoi, on touche bientôt à la fin de cette interview. Si vous avez encore une réaction, peut-être.
Juste dire que journaliste est resté journaliste. Donc en fait, la récupération politique, c'est pas. On n'est plus dans le journalisme à 100% là. Donc laissons les politiques s'énerver. Et ce serait bien d'arriver à défendre auprès de son rédacteur en chef, de sa rédactrice en chef, que ce n'est pas un sujet là pour le coup. Ou alors de débunker l'histoire. Non, ok, il y a récupération, mais nous on va aller au-delà et on va le prendre autrement. C'est une discipline interne aussi, intérieure, hein, intellectuelle du journaliste, de la journaliste, et de se dire tout dans la charte doit être appliqué, notre charte de déontologie, elle a plus de 100 ans, mais relisons-la aussi de temps en temps, s'il vous plaît.
Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Dancourt, Florent Pommier et Elisabeth Borne. C'était une
discussion. Non, Isabelle Borde.
Excusez-moi, Borde.
J'aurais adoré entendre
Incognito.
Ça aurait été très chouette. Mais merci pour vos réponses. C'était super enrichissant. Et puis ça permet aussi d'amener énormément de discours sur le fait divers, qui n'est pas seulement du fait divers, mais vraiment un fait qui peut être politique, qui doit être justement plus analysé dans aussi le journalisme, dans toutes les techniques du journalisme. Donc merci beaucoup pour votre intervention.
Merci.